Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Eau de Radio pour notre rendez-vous hebdomadaire dans le cinéma de Ciné-Son. Nous sommes le mardi 16 juin 2026 et les 14h pile, oui encore comme hier et comme demain sans doute. Que l'été arrive à grands pas, c'est une évidence, nous nous dirigeons vers ces jours horribles où il fait beau. Ah ah, trêve de plaisanterie enfin. Presque, puisqu'en termes de plaisanterie, je suis accompagnée aujourd'hui du meilleur comme du pire. Bonjour Jean-Jacques et bonjour Patrick.
Bonjour Anne-Lise.
Bonjour Anne-Lise.
Vous allez bien ?
Oui, mais alors on se pose une question avec Patrick. Oui. Qui est le meilleur et qui est le pire ?
Je vous laisse décider.
Moi j'ai trouvé,
vous
sémantiquement parlant, comme vous êtes nommé le premier, vous êtes sans doute le meilleur. Merci. Et que comme je suis nommé en second, je suis sûrement le pire.
Je m'en doutais un peu quand même.
Voilà, mais bon.
Oh, ça, c'est que enfin, vous qui le dites.
Voilà.
Il n'y a que moi qui le dise.
Oui. Allez, dans l'épisode numéro 29 de Ciné-Son, nous allons retourner dans l'année 1956 et évoquer l'actualité cinématographique de l'époque, mais pas que.
Cette année-là. Riche actualité dans le premier trimestre de 1956. Le 27 janvier s'ouvrent les Jeux Olympiques d'hiver à Cortina d'Ampezzo, en Italie. Il s'agit là des premiers JO bénéficiant d'une large diffusion à la télévision. Le 30 janvier, des militants ségrégationnistes blancs font exploser une bombe dans la maison de Martin Luther King, alors que sa femme Coretta, je dis bien Martin Luther King, et sa femme Coretta et sa fille Yolanda, âgées de 7 semaines, et une voisine s'y trouvaient. Alors la façade fut endommagée, mais personne ne fut blessé.
Et le 28 février, décès d'Émile Buisson, guillotiné pour ses responsabilités dans de nombreux braquages et dans 36 meurtres. L'inspecteur de police Roger Borniche retracera l'arrestation du criminel dans son livre Flick Story. Vous savez qu'il a été adapté au cinéma par Jacques Deray en 1975 avec Alain Delon et Jean-Louis Trintignant dans les rôles principaux.
Mais en février, le principal événement est la plus grosse vague de froid que la France n'ait jamais subie depuis le début des relevés en 1900. Pendant 3 semaines, un air glacial reste bloqué sur le pays.
Ce qui arrive en février 1956 est un épisode climatique hors norme. Il y a 70 ans, une vague de froid d'une violence exceptionnelle s'abat sur l'Europe et frappe le sud de la France de plein fouet. À Montpellier, on relève moins 17 degrés, moins 19 à Toulouse où le canal du Midi est pris par les glaces, moins 20 à Aix-en-Provence et jusqu'à moins 22 à Agen. Dans le sud-est, des orages de neige quasi tornadiques éclatent. Dans la vallée du Rhône, un mistral noir chargé de neige souffle en rafale dépassant les 150 km/h. La neige atteint 70 cm à Saint-Tropez, 1 mètre à Arcachon. À Marseille, le vieux port gèle tout comme l'étang de Berre et le petit Rhône. À Bordeaux, la Garonne, gelée, interrompt la navigation. Les dégâts agricoles sont immenses. Dans le vignoble bordelais, des ceps éclatent sous l'effet du gel. Certaines parcelles sont définitivement arrachées. En Provence et en Languedoc, des millions d'oliviers meurent. Cette vague de froid va durer tout le mois de février 56.
Bah dis donc,
nous n'étions pas nés. Donc
Non,
nous n'étions pas nés.
Le deuxième trimestre de 1956 voit la sortie du film de Julien Duvivier. En effet, le 13 avril, les grands écrans nous proposent « Voici venu le temps des assassins ». Une merveille de noirceur distillée au compte-gouttes et de rocambolesque avec Jean Gabin qui n'est plus le séducteur des années 30 que Duvivier avait fait tourner dans La Belle Équipe. La bande des rats, La fin du jour et Pépé le Moko. L'acteur a 20 ans de plus.
Eh oui. Alors, de quoi il est question dans ce film ?
Eh bien, oui, c'est toute la question.
D'un honnête homme, n'est-ce pas ? André Châtelain, pris dans un engrenage infernal. Cet homme est foncièrement bon, généreux et bienveillant. Restaurateur installé, il accepte de recevoir une jeune fille, Catherine, qui se présente à lui comme étant la fille d'un ancien amour d'André. C'est le point de départ de la galère, des embrouilles. Bande annonce.
Qu'est-ce que vous allez nous faire de bon ?
Vous me faites confiance, comme d'habitude ?
Non, ici, je ne commande jamais, je préfère la surprise.
Patron, il y a une demoiselle, là, qui vous demande.
Qui c'est ?
Je sais pas, elle m'a pas dit son nom.
Je voudrais vous parler de Madame Châtelain, votre femme.
Ah ! Mon ancienne !
Vous êtes la fille de Gabriel ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
On l'a enterrée il y a 6 jours.
Vous lui ressemblez pas, et pourtant, quand je vous regarde, c'est elle que je vois. Même bouche, les mêmes yeux. Gérard Delacroix, mon meilleur copain.
Dites, on pourrait combiner quelque chose, sortir ensemble ?
Pourquoi pas ?
Alors, comment la trouves-tu ?
Je ne me sens pas à mon aise. Elle me glace.
Moi, je n'aime pas les jeunes gens. Ils sont égoïstes et ingrats.
C'est pour lui que tu dis ça ?
Non, pour lui comme les autres.
Oh.
Il ne m'intéresse pas. Je suis heureuse.
Si seulement sa mère avait été comme elle, tiens.
Une belle garce, c'est qui t'en a fait voir.
Comment est Arcy?
Comme sa fille.
Il a de l'argent, alors.
Ça m'en a l'air.
Faut que tu l'épouses, il n'y a plus d'autre solution.
Nous, la mari et la femme, et c'est à peine si on se connaît.
J'ai été forcée de l'épouser.
Je vous crois pas.
Il est odieux avec moi.
Je croyais bien le connaître, pourtant.
Selon lui, tu m'as forcée à t'épouser.
Qu'est-ce que t'as encore dit, petit salaud, hein?
Tu m'aimes.
Tu le sais bien.
Tant qu'il sera vivant, il me poursuivra. Si je le quitte, il me tuera.
Ta-ta-tan. Julien Duvivier commence par nous montrer des gens qui travaillent dur, peinent, se lèvent tôt et se couchent tard. C'est une France laborieuse, mais c'est aussi une France heureuse. Puis se présente une jeune femme à la gueule d'ange dont on découvre progressivement qu'elle cache une âme noire. Si noire qu'on a peine à le croire. Et pourtant, il suffit de suivre les actualités pour comprendre à quel point les actes sordides, les pensées les plus mesquines, les calculs meurtriers sont devenus courants dans notre monde. Voici Le Temps des Assassins, puisque c'est le titre du film, est un film noir dans le plus grand classicisme. Le temps est étiré pour que les intentions des personnages soient bien établies. Gabin en chef, cuistot, plein d'autorité et d'égal à lui-même, mais son opposant féminin est tellement perfide que ça devient une caricature de méchant au féminin. Calculatrice, voleuse, menteuse, mais pas tout à fait responsable puisqu'elle est manipulée par sa maman. Elle-même est aussi une caricature de la mère castratrice, frustrée, droguée. Elles accumulent tellement de vices à elles deux que ça en devient exagéré. Alors moi, je me demande pourquoi le cinéaste a autant forcé le trait. Et tout ça, dans quel but? Pourquoi donc?
Mais pour de l'argent, ma bonne dame.
Il y a Gabin, bien sûr, bah mais oui. Aussi Danielle Delorme dans le rôle de Catherine. Formidable, intrigante, chaperonnée par sa mère perverse, bien décidée à profiter de l'argent d'André. À noter également la présence de Gérard Blin.
Seuls les innocents n'imaginent pas le mal chez les autres. Pagnol disait à propos de son père, il répétait sans cesse comme on est faible quand on a tort. La vie m'a appris qu'il se trompait et qu'on est faible quand on est pur. Voilà, les gentils sont faibles car ils n'imaginent pas les calculs des malins. Ouais, mais ça, c'était avant, n'est-ce pas? Ouais, moi peut-être pas. Enfin, La Complainte des Assassins, parole de Julien Duvivier et musique de Jean Vienner est interprétée par Germaine Montero.
Voici le temps des assassins, le temps du poison, de la corde. Où l'on n'a plus de miséricorde pour l'existence de son prochain. C'est le temps du bouillon d'onzeur que la femme fait boire à son mari pour trouver des ivresses meilleures dans les bras de son nouveau chéri. Pour trouver des ivresses meilleures dans les bras de son nouveau chéri. Le temps des assassins, la vieille pour punir sa famille, 15 personnes qui étaient pas gentilles, leur fait passer le goût du pain. La fille mère qui se trouve un matin un petit bâtard tout prêt à naître, n'ayant pas envie de le connaître, pour lui se transforme en assassin, n'ayant pas envie de le connaître, pour lui se transforme en assassin. Voici le temps des des assassins. L'amant fatigué de sa maîtresse lui envoie en guise de caresse une bonne décharge de 6.35. Le fiston zigouille son vieux père, la mère, sa fille et cet humain. Y'a pas plus tueur qu'une belle-mère. Voici le temps des assassins. Y'a pas plus tueur qu'une belle-mère. Voici le temps des assassins.
Patrick, il faut vous réveiller.
Oui, je me réveille, c'est Germaine Montero qui m'a un petit peu anesthésié, je dois dire. Alors, c'est au cours du deuxième trimestre 1956, le 14 avril, pour ne pas le dire, que la société Ampex présente le VRX-1000.
Qu'est-ce que c'est, ça ?
Alors, c'est le premier magnétoscope à ruban. Et toujours dans la catégorie audiovisuelle, 5 jours plus tard, le prince Rainier III de Monaco épouse qui ? L'actrice américaine Grace Kelly.
Alors, grand moment aussi de la chanson. C'est le 56, c'est le premier concours Eurovision de la chanson qui se déroule à Lugano, en Suisse, le 24 mai exactement. Eh bien, figurez-vous que c'est la chanteuse suisse Lys Assia qui remporte le concours avec la chanson Refrain.
D'accord.
Alors, elle aurait obtenu... Elle aurait obtenu un total de 102 points. Mais alors, sans aucune certitude, puisque les résultats du vote n'ont jamais été publiés.
Ok.
Facile.
Si ça se trouve, c'est la France qui avait gagné, on ne sait pas.
Avec qui ?
Ben, la Française Mathé Altéry a interprété la chanson bien nommée « Le temps perdu ».
Ah ben oui. Voilà. Autre mariage dans ce deuxième trimestre, le 29 juin, l'écrivain et scénariste américain Arthur Miller épouse l'actrice Marilyn Monroe. Toujours au mois de juin, le gouvernement fédéral américain entame la construction d'un grand
projet
d'autoroute à travers le pays. Aux USA, il se serait vendu 7,75 millions de voitures en 55. Dites donc.
Oui. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup.
Saviez-vous que le nom officiel du système d'autoroute inter-États américain est techniquement le Queens-White-Queens ? Système Eisenhower d'autoroute inter-États et de défense ? C'est parce que le 34e président a signé la loi sur l'aide fédérale aux autoroutes en 1956. Cela a essentiellement ouvert la voie, sans jeu de mots, aux presque 49 000 miles d'autoroutes. Le système autoroutier d'Eisenhower visait plus que la sécurité des voyages civils. C'était aussi une stratégie de défense de la guerre froide. Face à la menace d'une guerre nucléaire imminente, il envisageait des autoroutes qui pourraient évacuer rapidement les grandes villes si elles étaient ciblées. Le réseau avait aussi un objectif militaire, permettant un déplacement rapide des troupes, des armes et des fournitures à travers le pays en cas de crise. Le système autoroutier avait un budget initial de 25 milliards de dollars. Au final, il a fallu 35 ans pour construire le système. Quant au coût, il a grimpé à 114 milliards de dollars, soit plus de 4 fois l'estimation initiale. Ce qui montre à quel point le système autoroutier était vraiment une entreprise gigantesque.
C'est énorme.
Énorme.
C'est
énorme.
Beaucoup.
Alors, avant Maurice Pialat, Vincente Minnelli fut le premier à porter un écran à la vie de Van Gogh avec son film « La vie passionnée de Vincent Van Gogh » sorti le 17 septembre 1956. La distribution comprend Kirk Douglas dans le rôle de Van Gogh et Anthony Quinn dans celui de Gauguin.
Alors, nous sommes en 1878 en Hollande. Les autorités religieuses refusent au jeune Vincent Van Gogh, alors âgé de 25 ans, de devenir évangéliste. Cependant, sa compassion extrême fait que l'on accepte finalement de l'envoyer en Belgique, dans la région du Borinage, où la pauvreté côtoie les pires conditions de travail. Malgré son intense dévouement et sa sincère bonté, il se heurte chaque fois aussi bien à ceux à qui il pourrait apporter son assistance qu'à ses employeurs qui se méfient de tant de désintéressement. Il décide alors de se consacrer entièrement à la peinture.
Soutenu financièrement et moralement par son frère Théo, il persévère malgré la misère. Son cheminement le fait revenir en Hollande au sein de sa famille, puis à La Haye, où il expérimente une courte vie conjugale. Puis ce seront Paris, où il fait la connaissance de peintres impressionnistes, et Arles, où il est fasciné par la lumière du sud. Il y partage un temps la maison qu'il loue avec un autre peintre, Paul Gauguin. Mais leur cohabitation dégénère en conflit violent. Suite à un coup de folie, il se coupe l'oreille.
Alors évidemment, il est interné, mais il continue pourtant de peindre avec intensité. Ses œuvres gagnent en force expressive, mais il reste incompris. Isolé et en proie au désespoir, il sombre peu à peu. Il retourne à Paris où il retrouve son frère et enfin à Auvers-sur-Oise où il met fin à ses jours à l'âge de 37 ans, laissant une œuvre immense reconnue seulement après sa mort. Dans l'émission Apostrophe du 27 janvier 1989, Kirk Douglas évoquait la façon dont son rôle dans le film l'avait imprégné.
Dans le rôle de Van Gogh, ma femme, elle m'a dit, elle ne pouvait pas le supporter parce que c'était la première fois que quand je rentre, je continue comme je suis Van Gogh. Et c'était parce, peut-être parce que j'avais le visage de Van Gogh quand j'étais à Auvers-sur-Oise, quand je suis arrivé avec une barbe rouge, avec les cheveux, dans le costume de Van Gogh. Il y a les gens là-bas qui sont... Il est retourné. Et ça me rend fou. Et après un peu de temps, je commence à penser que peut-être moi, j'ai fait les tableaux. Je regarde à Amsterdam, Hollande. Je regarde les... Une fois, j'étais en train de regarder, il y a une salle de tous les tableaux que Van Gogh, il a fait de lui-même. Et moi, j'étais avec la barbe et les cheveux, et je regarde, et tout à coup, il y a un silence. Je tourne la tête, il y a peut-être 100 personnes qui me regardent.
Il est formidable,
Il était, oui.
Enfin, oui, il était, bien sûr. Comparé à d'autres biographies filmées de grands artistes européens vues par Hollywood, la vie passionnée de Vincent Van Gogh frappe par son authenticité et son souci du réalisme. Minelli enrichit le scénario par de recherches personnelles et par la lecture de nombreuses lettres de Vincent Van Gogh à son frère Théo.
Alors le film fut tourné sur les lieux mêmes des différentes périodes de la vie du peintre,
ouais.
N'est-ce pas, aux Pays-Bas, en Belgique et dans les Bouches-du-Rhône en France. L'évocation du passage du jeune Van Gogh à Borinage, où il partage la misère des familles de mineurs et l'angoisse des fréquents et meurtriers accidents du travail, compte parmi les plus grands moments de tout le cinéma de Minelli.
Sa relation d'amitié et de rivalité avec Gauguin est également très réussie. Anthony Quinn remportera d'ailleurs l'Oscar du meilleur second rôle pour son incarnation de Gauguin. D'autres artistes, dans d'autres arts, ont rendu hommage à Vincent. Témoin Philippe Forcioli avec sa chanson Vincent Van Gogh.
Qui croit, qui crée, qui craque et crève sur la toile en feu de ses rêves, qui crie, qui craint, qui croûte peu, c'est Vincent le miséreux. Qui souffre un gouffre et peint son sang, bouffé par les anthropophages, qui suit le soufre et chie l'encens, c'est le malheureux Vincent. Qui peste et pue le lourd malheur, qui sait le rouquin qu'a jamais l'heure, et qui fait peur aux femmes enfants, c'est monsieur le pasteur Vincent. Hurle à mort le vide encore sur le vieil or, sa misère qui touche au ciel avec du blanc, c'est le fou, le doux Vincent qui cale la corrida des rues, une oreille il a perdue et qui qu'a parlé au corbeau comme François Poverello, et qui nous crache à la figure tous nos mensonges et la détresse, et qui a subi la torture pour que vérité paraisse, qui a jamais pu s'en sortir et qui appelle de l'arc-en-ciel qui est un signe pour les paumés, qui est un saint pour les damnés. Soleil dans la poitrine qui touche au ciel avec du blanc, c'est le fou le doux Vincent.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année. Moi, je trouve que c'est dingue.
Allez, je parie que vous l'avez reconnu, le jingle. Eh bien, nous allons vous proposer d'écouter des petites chroniques sur les films que vous pourriez voir, si vous le voulez, à la télévision, assis dans votre canapé, votre fauteuil ou même dans votre lit.
Mais quand ?
Eh bien, cette semaine, bien sûr. D'accord. Bien sûr que cette semaine. Et ça commence avec qui ? Allez, on va commencer avec Annelise, tiens.
Ah ben tiens, allez.
Et au
ben
hasard.
Moi, je vous propose un film sur la nouvelle chaîne T18 qui sera diffusée demain à 21h, qui s'appelle 47 Meters Down, qui est un genre plutôt thriller aquatique, peur suspense.
Ah oui.
Oui, thriller aquatique, je vous explique pourquoi. Parce que c'est en fait une expédition d'observation des requins tourne au cauchemar.
Ah d'accord.
En fait, deux sœurs se retrouvent bloquées au fond de l'océan dans une cage d'observation. Lorsque le câble de la cage se brise, le manque d'oxygène les guette, de même que des grands requins blancs attirés par le sang.
Ça fait
trop bien.
Voilà. Et ben en fait, c'est un film de requins qui est plutôt bien fait.
Le film de requins, c'est le réalisateur qui s'appelle.
Non, le réalisateur, c'est Johannes Roberts.
Ouais.
Voilà. Mais en fait, le film est très bien fait.
Et le requin, il s'appelle comment ?
Et le requin, il s'appelle le requin. Il y a Mandy Moore et Claire Holt qui jouent les
sœurs.
Requins.
Ah, les sœurs, oui.
Voilà.
Les requins.
Oh là là, vous arrêtez, hein. C'est pas... Vous êtes insupportable. Pire que des gosses.
Ah bon ?
Vous n'avez pas fini de me couper la parole ?
Si, presque. Bon. Dès que vous avez fini, on arrête.
Alors... Bon, bah j'arrête. Oh, voilà, c'est sur T18.
Ah, c'est sur C18.
Non. Sur T18.
Sur T18.
Oh là là, rappelez-moi le titre du film.
Bah non.
Et à quelle heure ?
47 Meters Down, et c'est à 21h sur T18, et c'est très 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 bien pour un film de requin. C'est plus un thriller qu'un film de requin.
D'accord.
C'est pour ça que, comme ça se passe sous l'eau, c'est un thriller aquatique.
D'accord.
Subaquatique même.
Subaquatique. D'accord. Allez, j'en reste là.
Allez. À vous ?
À moi ? Bon, alors
allez.
Ce sera... On est quand là ? On est mardi.
Ce sera mardi.
Demain soir.
Ouais.
Ah bah comme moi.
Oui,
bah,
mais alors
voilà.
À 21h10.
Bah comme moi quasiment.
Sur TF1 série film.
Ah bah vous êtes un copieur. Hein.
Voilà, ça s'appelle La mécanique de l'ombre. C'est un film d'espionnage. C'est le premier long métrage de Thomas Krutoff qui est sorti en 2016. Alors de quoi il est question ? Bien, François Clauzet, vous voyez qui c'est ? Il joue Duval, un personnage qui après un burn-out se retrouve au chômage pendant 2 ans. Et alors il est contacté par un homme d'affaires assez mystérieux qui est joué par Denis Podalydès, qui lui propose un travail mais très lucratif, qui consiste à retranscrire des écoutes téléphoniques. Alors comme Duval, il est aux abois financièrement, il dit ben, j'y vais, mais sans savoir quelle est l'organisation qu'il emploie. Et il va se retrouver au cœur d'un complot politique, voilà, dans le monde des services secrets et des réseaux politiques. Alors outre Cluzet et Podalydès, on retrouve Samy Bouachlila et Simon Abkarian.
Oui. Ouais, très bien, vous voyez, on ne vous a pas coupé la parole cette fois-ci.
C'est La mécanique de l'ombre, c'est demain soir à 21h10 sur TF1 série film.
Sur TF1 série film, très bien.
À vous Patrick.
Alors bah, moi, ce sera pas demain.
Ah bon.
Ah bah très bien.
Ce sera ce soir.
Au bas,
parce
on
qu'il
va
y a
pas
urgence.
Très loin dans la semaine.
Vous regardez
à 22h40. Pardon ?
Il y a
France-Sénégal
ce soir.
C'est quoi ça ?
C'est match de foot.
Ah d'accord, pardon. Donc on peut continuer le cinéma.
Non, faut la boycotter.
Alors donc c'est ce soir à 22h45 sur Canal+ grand écran.
C'est après le match.
C'est un film de Nicolas Pariser qui est sorti en 2018. Alors, si je vous dis le résumé, allez, vous qui avez une très grande culture cinématographique, c'est vous ça. Allez trouver tout de suite. Brillante norbalienne, diplômée en philosophie et en littérature, Alice Heyman vient de quitter Oxford pour un poste à la mairie de Lyon.
Ah, c'est avec
le maire. Paul Terrano lui révèle avec désespoir qu'après trois décennies de politique, il ne peut plus penser tant il se sent épuisé et vide. Et pour renouveler son inspiration, Alice est chargée de lui rédiger des courtes notes empreintes de réflexions philosophiques. Alors si Terrano est rapidement enthousiasmé par les idées de la jeune femme, cette dernière a du mal à s'adapter au quotidien trépidant de l'équipe municipale et aux sollicitations incessantes de sa chef de cabinet.
J'avais votre actrice préférée, je crois.
C'est une plongée pertinente dans les dessous de la politique et ceux qui la font, au-delà du spectacle médiatique. Et puis, il y a Anaïs de Boustier, évidemment. C'est donc avec Fabrice Luchini, Anaïs de Boustier, que je viens de dire, et Nora Hamzaoui, qui est très, 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 très bonne. Ça s'appelle Alice et Monsieur le Maire.
Oui, oui.
Qui est un film absolument génial. C'est une super comédie.
C'est un petit film sympa.
C'est une comédie dramatique.
Ouais. Luchini fait du Luchini.
Il est plus fin que ça, que d'habitude,
ouais,
je trouve.
Ouais.
Mais puis, il y a surtout Anaïs de Boustier, donc voilà, pour
bon,
moi tout
c'est
est pardonné.
C'est ce que vous voulez dire.
Je peux en parler deux autres. Hein.
Alors on revient à l'année 56 et au début du troisième trimestre, coureur cycliste franco-polonais Roger Walkowiak remporte le Tour de France.
Ouais.
Et bien vous savez que cette 43e édition est le premier tour pour lequel on peut changer une roue après une crevaison, dit-on.
Incroyable.
Parce qu'avant on avait les chambres à air.
On avait sur le dos, on les portait, oui.
Ouais. C'est vrai.
Et le 8 août, un incendie dans une mine de charbon de bois du Casier en Belgique fait 262 victimes sur les 274 hommes présents dans la mine.
C'est beaucoup, hein.
Eh oui. Ouais, toujours au mois d'août, une circulaire du gouvernement interdit la distribution d'alcool dans les cantines scolaires pour les enfants de moins de 14 ans. C'était incroyable, ça, quand même. Avant cette date, on croyait encore que le vin donnait des forces aux enfants au même titre que la viande.
Mais pourquoi, c'est pas vrai?
À Montgeron, les enfants des écoles primaires sont des enfants heureux. Plus question de cantine, ils vont déjeuner comme des grands au restaurant d'enfants. Un menu scientifiquement équilibré tient compte, en ce qui concerne le choix des boissons, de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Cette mesure salutaire est étendue à la campagne où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croûte quotidien. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants.
C'est-à-dire que quand tu avais plus de 14 ans, tu pouvais picoler à l'école.
Picoler, c'est ça qui est bien.
C'est incroyable.
Vous étiez né, Patrick?
Peut-il?
Vous étiez né
pas encore.
Avant 56?
Pas
vous n'avez pas connu l'alcool, alors?
Non, je n'ai pas connu l'alcool.
Vous êtes rattrapé après, non?
Le 13 septembre, l'inventeur américain Randall Johnson crée le premier disque dur informatique commercialisé par IBM. Alors attention, restez assis. Il mesurait 1,52 m de large sur 1,74 m de long et pesait une tonne, à peu près comme moi, quoi.
Oh.
Et il pouvait contenir 5 mégaoctets, soit l'équivalent d'une photo de résolution moyenne.
On a fait des progrès depuis.
Un petit peu.
Ah oui, j'ai maigri.
Alors le 11 novembre 56 sort Un condamné à mort s'est échappé, réalisé par Robert Bresson. Nous sommes en 1943, arrêté et interrogé par la police allemande pour acte de résistance, le lieutenant Fontaine est incarcéré au fort de Montluc dans la région lyonnaise. Au cours de son transfert, il tente une évasion improvisée en sautant de la voiture conduite par un SS. Bon, il est immédiatement repris, on l'enferme dans une cellule. Refusant de s'abandonner au désespoir, il prépare jusqu'à dans les moindres détails son évasion.
S'étant débarrassé de ses menottes à l'aide d'une épingle ayant transformé sa cuillère en outil, il entreprend de démonter la porte de son cachot. Il fait part de ses intentions aux rares détenus qu'il peut aborder aux heures de promenade et à la toilette.
Convoqué au siège de la Gestapo, les autorités lui apprennent sa condamnation à mort. Il est mécontent de s'apercevoir, lorsqu'il regagne sa cellule, qu'un autre détenu la partage. Un adolescent farouche au regard ambigu qui pourrait très bien être un espion, un mouton.
Un autre prisonnier s'échappe, mais est aussitôt rattrapé. Avant d'être fusillé, il parvient à expliquer à Fontaine comment franchir le mur d'enceinte. À l'aide de son matelas et de ses vêtements, Fontaine tresse une corde. Il hésite à faire confiance à son compagnon de cellule, mais finalement s'y résout. Eh bien, c'était le bon pari, car grâce à lui, il réussit son évasion. Voici la présentation du film.
Ce bâtiment est la prison militaire de Montluc, à Lyon. De cet univers de ciment et de fer cerné par les mitrailleuses allemandes, un homme a réussi à s'échapper. Un seul. Le lieutenant André de Vigny. C'est l'histoire de cet exploit unique que raconte le nouveau film de Robert Bresson. D'un côté, des murs, des barreaux, des soldats, des armes. De l'autre, un homme seul, désarmé, battu d'avance. Cette confrontation dramatique d'un monstre et d'un homme, la prison et son prisonnier, a été reconstituée par Robert Bresson sous les yeux même du héros qu'il a vécu. Certains épisodes pourront paraître incroyables, mais la vérité rigoureuse dépasse toutes les fictions. Un condamné à mort s'est échappé, et pourtant ceux qui entraient à Montluc devaient quitter toute espérance.
Alors Bresson, qui voulait que son film soit le plus authentique possible, et il a réussi, c'est un véritable chef-d'œuvre pour moi. Hein. L'auteur du livre dont le film est adapté, André Devigny, était présent donc en tant que conseiller pendant le tournage dans la même prison que celle où il avait été incarcéré. Pour interpréter son rôle, Bresson a fait appel à François Leterrier. Et alors il était âgé de 27 ans et c'était le premier film en tant qu'acteur, donc il voulait quelqu'un d'inconnu évidemment. Par la suite, Le Terrier deviendra réalisateur, et alors dans un autre style, puisqu'on lui doit quelques comédies dans les années 80, comme Je vais craquer, vous savez, avec Christian Clavier. Autre chose, complètement.
Lors de la présentation du film au Festival de Cannes, une journaliste demandait à Bresson pourquoi il n'avait pas employé des acteurs professionnels.
Parce que je pense qu'il faut se dégager complètement du théâtre, et que... S'exprimer pas à travers un acteur, c'est s'exprimer avec les moyens du théâtre, qui sont la mimique, les gestes et les effets de parole. Le cinéma doit partir du vrai et arriver au vrai. Or, la donnée, c'est la nature, c'est l'homme, ce n'est pas l'acteur. L'acteur est quelqu'un qui essaie d'être une autre personne. La caméra qui prend tout prend ça aussi et donne du faux. Mais je ne suis pas le seul à avoir pensé employer des acteurs d'occasion. Mais le problème est que c'est extrêmement difficile, ça demande une grande préparation et beaucoup plus de travail que d'employer les acteurs habituels. Ce que je travaille, c'est une facilité de parole. C'est-à-dire, c'est la chose la plus difficile à obtenir. On peut obtenir très facilement que quelqu'un soit naturel dans ses gestes. Mais il est très difficile d'arriver à faire parler quelqu'un et qu'il garde son authenticité, son naturel, à travers les paroles. Il est gêné très facilement. Or, les simples exercices que nous avons faits ensemble étaient des exercices de lecture.
Voilà, c'est dit.
Alors, quand on ne connaît pas le cinéma de Bresson, le visionnage du film peut dérouter. Mmh. Alors, il est le reflet du goût de Bresson pour l'austérité, tournage en noir et blanc, peu de personnages, décors extrêmement simples, dialogues brefs, usage important de la répétition des sons.
Le son, qui est la principale matrice du film, ouais, et qui permet brillamment de construire l'univers autour d'un personnage principal cloîtré dans sa cellule. Les claquements de bottes des geôliers, le choc des clés contre les barreaux d'escalier, etc. Intelligemment, le bruit est souvent synonyme de danger pour Fontaine, qui redoute que les sons produits par ses grattements contre sa porte le trahissent.
Alors, sur le plan de la musique, seul le Kyrie de la grande messe en do mineur de Mozart est utilisé. Il n'apparaît qu'à 4 reprises. La phrase musicale illustre à la fois l'évasion de Fontaine, qui doit descendre en isolement pour finalement sortir de l'enceinte de la prison, la monotonie du quotidien de tous les prisonniers, le temps qui s'égrène avant l'exécution de la sentence. Voici donc un extrait du Kyrie.
Thank you. pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Mais bien sûr, sur 91.3, eau de radio, bien entendu.
Le 6 octobre 56, le médecin et virologue américain Albert Sabin annonce la mise au point d'un vaccin contre la poliomyélite. Et le mois suivant, Jacques Brel obtient son premier grand succès avec « Quand on a que l'amour ».
À partir, à offrir en partage. Ouais. Le 13 novembre, la Cour suprême des États-Unis abolit enfin les lois ségrégationnistes dans les bus. Désormais, les Noirs américains auront le droit de s'asseoir où ils veulent.
Dans la rubrique sport, le 1er décembre, le Français Alain Mimoun remporte la médaille d'or au marathon des Jeux Olympiques de Melbourne.
Eh oui.
Enfin, au bilan nécrologique de l'année, on note les décès de la chanteuse Miss Tinguette, des peintres Jackson Pollock et Marie Laurencin, du dramaturge allemand Bertolt Brecht.
Et certains et certaines qui deviendront célèbres ne le savent pas encore, puisqu'ils naissent en cette année 56. Tiens, allez, un petit florilège. Étienne Dao, Lars von Trier, Mel Gibson, Tom Hanks, Gina Davis, Carrie Fisher, l'inoubliable princesse Leila, et bien sûr, votre serviteur qui est né le dernier jour de 56. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qu'il
nous a dit ? On va retrouver la princesse Leila dans une interview de Star Wars.
D'accord.
C'est dans une autre galaxie, alors il n'y a pas le même temps d'ici. C'est dans le past ou dans le futur. Tu ne sais pas. Marc a dit que c'est comme vous jouez avec les toys.
Les jouets.
Multi-million dollar toys. C'est fantastique. Moi, je ne jouais pas les Cowboys and Indians quand j'étais très jeune. Alors, c'est ma première fois. J'aime beaucoup. J'aime avec... je joue avec le pistolet et quand je shoot, tous les Stormtroopers à tomber, c'est bien, la première fois. C'est... Et je suis un être du bien. J'aime ça.
Vous remarquez qu'il y avait pas mal d'artistes qui parlaient français.
Qui parlaient français à l'époque.
Bass, Gary Fisher et d'autres.
Et maintenant, nous, on parle américain.
Ouais, vous, personnellement, peut-être.
Je parle américain couramment sous la torture.
Vous êtes né en 56, vous.
Alors oui, parce que figurez-vous qu'en 1956, le cinéma est en pleine mutation.
C'est l'orage.
Je reprends. En 1956, le cinéma est en pleine mutation. La télévision entre dans les foyers et les studios hollywoodiens réagissent avec des productions gigantesques en couleur et en grand format.
Comme.
Et parmi les succès de l'année, impossible de ne pas citer Le Tour du Monde en 80 jours. Adapté de Jules Verne, ce film fleuve réunit une multitude de vedettes, parmi lesquelles Frank Sinatra, Buster Keaton ou Marlène Dietrich, dans des apparitions parfois très brèves. Son producteur mise sur le gigantisme et sur les tournages aux quatre coins du monde et sur une promotion démesurée. Ah, le pari est gagné, le film remporte l'Oscar du meilleur film, reste plus de 100 semaines à l'affiche dans certains cinémas américains, une chose qui serait presque totalement imaginable aujourd'hui.
Mais en 1956...
C'est l'année de la naissance.
C'est aussi, tout à fait, mais c'est aussi une année de chef-d'œuvre plus audacieux.
Ah bah oui.
Et oui. Aux États-Unis sort La prisonnière du désert de John Ford, aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands westerns de l'histoire.
Avec John Wayne.
Et oui, mais aussi La planète interdite, pionnier de la science-fiction moderne. Et du côté des festivals, la Palme d'or du Festival de Cannes est attribuée au Monde du silence. Vous savez, le documentaire sous-marin de Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle. Le film obtiendra ensuite l'Oscar du meilleur documentaire.
Oui, mais ne vous en déplaise, si Hollywood triomphe avec ses super productions spectaculaires, le cinéma français est en train de préparer sa révolution.
Et paf !
Cette année-là, un film fait sensation. « Et Dieu créa la femme », réalisé par Roger Vadim. Il révèle au monde entier une jeune actrice de 21 ans, Brigitte Bardot, avec son personnage libre, sensuel et indépendant, Bardot bouscule les conventions de l'époque. Le film devient un succès international. Pour beaucoup, c'est le début du phénomène Bardot.
Autre succès populaire, tiens, La traversée de Paris. Dans ce portrait grinçant de l'occupation, deux monstres sacrés se donnent la réplique, Jean Gabin et Bourville. Une anecdote est restée célèbre. Gabin, qui n'apparaît pas comme le héros principal, impose pourtant sa présence au point de voler presque toutes les scènes du film. Et cette année-là, les jeunes critiques du Cahier du cinéma, parmi lesquels Truffaut, Godard ou Chabrol, conteste de plus en plus le cinéma dit de qualité française. Il rêve de films plus personnels, plus libres, tournés dans la rue avec des moyens légers. Mmh. Et figurez-vous que 3 ans plus tard, leurs idées donnent naissance à la nouvelle vague.
Avec le recul, 1956 apparaît comme une année de transition. Les grandes figures du cinéma classique sont encore là, Gabin, Bourville, Gérard Philippe, etc. Mais une nouvelle génération est déjà en marche. Entre le triomphe du monde du silence, la naissance du mythe Bardot et les premiers frémissements de la nouvelle vague, le cinéma français est à l'aube d'une révolution qui marquera l'histoire mondiale du 7e art.
Et cette même année 56, Édith Piaf publie « Les amants d'un jour » comme face B dans un 45 tours. La musique est de Marguerite Monod, les paroles de Claude Delécluse et Michel Senlis. Michel Senlis qui, en 62, écrira « Mon vieux » pour Jean Ferrat.
Moi, j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés, se tenant par la main, les yeux refermés vers d'autres matins. Remplis de soleil, on les a couchés, unis et tranquilles, dans un lit creusé au cœur de la ville. Et je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel des amants d'un jour. Mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un bout de leur soleil et tant de couleurs que ça me fait mal, que ça me fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il y a toujours dehors la chambre à louer.
Tiens, tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle.
Ça, c'est vrai, ça.
Et oui, vous l'avez reconnu, notre petite jingle qui, on va vous annoncer trois films qui vont sortir demain. Au cinéma, bien sûr, et pas à la télé, n'est-ce pas ? Voilà, et on va commencer...
Chut, oui, pardon.
Je parle.
Oui, d'accord.
Et on va commencer par Patrick, va nous donner un choix.
Un choix, ça tombe bien, je n'en ai qu'un.
Très bien.
Parce que, alors, je n'ai pas trouvé grand-chose.
Oui.
J'ai trouvé celui-ci, dont on a parlé encore un petit peu à la radio hier matin, dans l'émission de Nagui. C'est un film de Laetitia Masson, avec Élodie Bouchèze, Alphonse Robert, Stanislas Mérard. Ça s'appelle Ulysse.
Ah oui, j'en ai entendu parler.
Alors c'est une comédie dramatique, hein, on est bien d'accord là-dessus, c'est pas de la grande gaudriole. Alice est chercheuse en sociologie et découvre qu'elle est enceinte. Son mari, Luc, exulte. Ce sera un garçon et ils l'appelleront Ulysse. Sauf qu'à un an, Ulysse ne rentre pas dans les courbes, il est trop petit, trop maigre. Et les pédiatres s'interrogent et le verdict tombe. Il est victime d'un syndrome génétique. Ulysse ne sera jamais comme les autres. Mais comment sera-t-il ? Mystère. Commence alors la très particulière odyssée d'Ulysse. Marcher, parler, apprendre, comprendre, s'épanouir. Alice se lance dans l'aventure, déterminée à ce qu'Ulysse trouve sa place dans le monde. Alors, appeler son enfant Ulysse, c'est déjà décidé que sa vie sera une odyssée. Et tout le film de Laetitia Masson tient dans ce pari et dans ce qu'il coûte. Transformer un parcours du combattant en épopée, quitte à donner à pardonner en route ce qu'il faudrait pour regarder en face. C'est un film qui est très très touchant. J'ai vu quelques images. Élodie Bouchez est particulièrement confondante de sincérité et d'humanité envers ce petit garçon. Et voilà, moi je vous le conseille, ça a l'air très très beau.
D'accord, très bien. Eh bien écoutez, et vous Jean-Jacques ?
Alors moi, comme Patrick, j'ai pas trouvé grand-chose, ouais. Sauf une...
Il y a des reprises.
Film de 1949. Film italien de Giuseppe De Santis, Ria Mer. Alors de quoi il est question ? C'est l'histoire d'un couple de jeunes délinquants qui volent un collier dans un hôtel et qui s'enfuient. Et pour se cacher, ils vont se mettre dans le convoi de ces ouvrières qui partaient pour ramasser le riz dans les plaines du Pô, dans le nord de l'Italie. Alors c'est un film de la veine du néo-réalisme italien de cette période-là, de l'après-guerre. De Santis, c'est un des maîtres de ce genre-là, avec bien sûr Visconti, De Sica et Rossellini. Cinéma italien social où on montre les travers de la société avec des comédiens et des comédiennes amateurs souvent. D'ailleurs les ouvrières qui travaillent dans ces rizières jouaient dans le film après leur journée de travail une fois qu'elles s'étaient reposées un tout petit peu, enfin c'était des métiers très durs, et il y avait deux acteurs professionnels par contre, mais des jeunes, Vittorio Gassman.
Par lui, je connais, oui.
26, 27 ans. Et encore plus jeune, Silvana Mangano, qui avait même pas la vingtaine, quoi. Mais c'est un film, je l'ai dit, à voir et à revoir, qui nous rapproche des problématiques sociales qu'on retrouvait à l'époque, après la période Mussolini, qui avait leurré un peu le peuple italien, en lui faisant croire que tout était bien. Ce n'était pas si bien que ça. Voilà. Ria Mer. Alors, ça sort dans certaines salles, pas d'autres, mais renseignez-vous, vous allez trouver, de toute façon. Voilà, Annelise.
Très bien.
À vous, Annelise.
Eh bien,
c'était fini.
Moi, je vais vous parler d'un blockbuster, en fait, mais qui s'appelle Backroom, Rooms, d'ailleurs, de Ken Pearson. Une étrange porte apparaît le soir dans un magasin de meubles. Clark, un architecte raté, est le propriétaire de ce magasin. Et un soir, alors qu'il dort dans son magasin, il voit un trait de lumière et se retrouve dans le Backrooms. Alors il faut savoir que Ken Pearson, le réalisateur, en fait, c'est un des plus jeunes réalisateurs à avoir réalisé un gros film comme ça. Il avait commencé à écrire une série d'abord qui s'appelle Backrooms et qu'il a publié, qu'il a créé sur les réseaux sociaux et sur YouTube, et il a été repéré par les studios et ils lui ont demandé du coup de faire le film. Donc c'est pour ça, c'est déjà pas mal, et il a l'air pas mal. Alors, on est sur de la SF, de l'horreur et du thrillers, mais voilà, si on aime bien ce genre, je pense que ça peut amener quelques petits frissons.
Et ça sort partout, ça ?
Ça sort partout dans des grosses salles de cinéma dans la métropole.
D'accord.
Voilà.
C'est bien.
Bah oui, c'est bien.
C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ?
Eh bien voilà, Cinescence est déjà fini.
Oh.
Voilà. Enfin, jusqu'à ce que tout recommence. Je vous laisse profiter des beaux jours qui arrivent.
Très chaud.
Donc faites attention.
Oui.
Mais buvez. Du coup, restez à l'intérieur et regardez des films.
C'est ça. Et préservez les vieux. Hein,
Mais n'hésitez pas à nous réécouter en podcast ou bien à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. La semaine prochaine, nous rendrons hommage à deux personnalités marquantes du cinéma.
Et ce sera sur O2 Radio à 14h91.3, bien entendu. Et comme d'habitude, nous finissons en chanson avec la perle du jour dénichée par Jean-Jacques.
J'ai déniché une perle du jour. Figurez-vous qu'en janvier 1956, Boris Vian, qui a alors 36 ans, Il sort Les Joyeux Bouchers,
ah,
une chanson à mi-chemin entre la chanson dite intellectuelle, le plus souvent engagée, et celle humoristique, drôle et agressive. Une chanson qui met en scène l'absurdité et les contradictions de l'ordre établi. Voilà.
Allez. Oui, allez, à mardi prochain. Ouais, et en attendant,
bon vent à tous.
C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comme ac. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes vat en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis-en quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.